Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le paddock RMC va débriefer le Grand Prix du Canada. Il s'est passé plein de choses sur le circuit Gilles Villeneuve. On a eu un week-end très sympa dans cette saison de Formule 1 un peu tronquée. Vous le savez, il y a eu une grosse pause après le report, l'annulation des Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite. La F1 avait repris à Miami. On a eu encore une petite pause et là, ça y est, ce Grand Prix du Canada marque vraiment le retour définitif de la Formule 1. On va voir si Andrea Kimi Antonelli est toujours aussi souverain. Je vous spoil un petit peu, il a marqué les esprits ce week-end, Andrea Kimi Antonelli, avec une quatrième victoire consécutive et il s'est passé plein de choses. Les ingénieurs du paddock RMC aujourd'hui, notre team principal n'est pas from Miami, il est from Paris, aujourd'hui en studio. Salut mon Jean-Luc.
Eh ben oui, tout arrive, salut mon Nico, bonjour à tous.
Et avec toi Nicolas OP de Formule France, salut Nico.
Bonjour à tous, salut, on va t'appeler Nico 2 alors. Alors
Nico 2, c'est parti.
Nico 2, ça va, vous trouvez le surnom que vous voulez à Nico. Les amis, on va bien évidemment revenir sur le gros duel qu'on a eu chez les Mercedes, Antonelli et Russell. Ça s'est chicaillé tout le week-end et c'est le petit rookie de 19 ans, le petit jeune qui a montré qu'il était le patron. Donc il va falloir qu'on débatte de tout ça. On va parler également de la deuxième place de Lewis Hamilton, le premier podium de Max Verstappen. Isaac Hadjar a relevé la tête et puis Alpine confirme que ça va mieux chez Alpine. On va revenir sur tout ça. C'est parti pour ce débrief du Grand Prix du Canada. Bon, je vous ai donné un peu le classement. Hein. En gros, victoire de Kimi Antonelli, la quatrième consécutive pour le jeune pilote Mercedes. Devant Lewis Hamilton, deuxième avec sa Ferrari. Meilleure performance depuis qu'il est arrivé à la Scuderia en course sur un Grand Prix classique, pas sur une course sprint. Max Verstappen, troisième, premier podium de la saison pour le quadruple champion du monde. Devant Charles Leclerc, qui termine quatrième, loin de son coéquipier. Hein, 34 secondes de Lewis Hamilton. Isaac Hadjar, très bon cinquième avec sa Red Bull devant Franco Colapinto, sixième, Liam Lawson, septième, Pierre Gasly, huitième, Carlos Sainz et neuvième, et Oli Berman complète le top 10, Piastri et Norris, vous ne les avez pas entendus dans le top 10 puisqu'il s'est passé des choses stratégiques qui ont fait qu'ils sont lamentablement plantés sur ce Grand Prix du Canada. Piastri arrive quand même à terminer 11e. Norris n'a pas bouclé le Grand Prix. Il a dû abandonner Esteban Ocon. Ça a été compliqué pour lui ce week-end, une nouvelle fois 14e seulement. Esteban, voilà pour le classement de ce Grand Prix du Canada au championnat du monde. Kimi Antonelli est en train de s'envoler 131 points pour les Italien, c'est toujours George Russell qui est deuxième du championnat avec seulement 88 points. Il y a quasiment 50 points d'écart désormais entre les deux pilotes Mercedes. Leclerc est toujours troisième, désormais talonné par son coéquipier Hamilton, quatrième avec 72 points. Les McLaren ont perdu gros ce week-end et Max Verstappen qui commence quand même à faire des perfs régulières après Miami et le Canada. Il se hisse en septième position. Voilà, Isaac Hadjar aussi hein, a pris de gros points. Il est remonté à la 12e place du championnat du monde. Voilà pour... Tiens, je ne vous ai pas donné les constructeurs, mais est-ce qu'il faut le donner encore le constructeur, Jean-Luc hein, parce que Mercedes se balade.
Ils sont gris. C'est une étoile, ça vient d'Allemagne.
C'est ça, exactement. Ça vous va ? Mercedes 219 points, Ferrari 147 et McLaren 106. Voilà pour le classement des constructeurs, les trois premières équipes. Mon Jean-Luc, il faut qu'on revienne sur cette passe d'armes. C'est quand même ce qui a alimenté tout le week-end. Cette guerre intra-Mercedes entre George Russell et Kimi Antonelli. On l'avait dit dans le paddock, dans le warm-up qui précédait ce Grand Prix. C'était peut-être la dernière chance vraiment pour George Russell de montrer qu'il était là. On a senti que l'Anglais voulait taper un peu du poing sur la table. Il l'a fait lors de la course sprint, mais en course, y a eu plein d'événements qui ont fait que c'est pas passé. On a eu une vraie bataille, en tout cas sur la piste entre les deux pilotes Mercedes.
Oui, mon Nico, si tu me permets, juste je te reprendrai sur une toute Vas-y. Petite chose, c'est qu'en fait, il a réagi là en champion, qu'il n'est pas en champion du monde, mais on attendait une réaction de sa part, parce que c'est vrai qu'après avoir été laminé, on peut le dire, hein, à trois Grands Prix et complètement laminé à Miami, où il l'a dit, c'est pas mon circuit, je me sens pas bien. Bon, c'est toujours des explications, je l'avais dit à l'époque, moi, qui me gênent un petit peu, parce qu'un pilote de ce calibre, de ce talent, de ce niveau, bon, je veux bien qu'il y ait des circuits où il se sente mieux et d'autres un peu moins bien, mais l'explication est un peu vaseuse. Là, je trouve qu'il a réagi vraiment, je le répète, en champion, en tout cas champion qu'il pourrait devenir, parce qu'après l'Australie, où il avait quand même, il faut le rappeler, signé la pole et remporté la victoire, là, C'est vrai qu'Antonelli, qui, par parenthèse, et on y reviendra, a réalisé une performance alors encore plus unique, parce que 4 victoires d'affilée à l'issue de la première, enfin la première inclue, et ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du championnat du monde de Formule 1. C'est-à-dire que tous les plus grands champions, et on cite au moins ces trois-là, Hamilton qui roule encore, Schumacher et Senna, je vais m'arrêter là, Prost, Stewart, qui tu veux, personne n'a fait ça. Donc c'est absolument remarquable. Alors, pour parler de Russell, puisque c'était la question, il fallait absolument qu'il réagisse. Je ne le cache pas, puisqu'on s'est écrit, hein, tout le monde peut s'y reporter. Moi, j'en avais fait mon favori, et il a failli le faire. Il a remporté la sprint race, il a signé les deux pôles. Donc, moi, je pensais qu'il savait qu'il devait le faire. Il était en train, peut-être, de le faire. Bon, il était en tête au moment où il a eu ce problème mécanique. Mais ça, c'est vraiment terrible pour un pilote, parce que là, il n'y peut rien. Il n'est évidemment responsable de rien. Ils se sont battus comme des chiens, comme tu l'as dit, avec Antonelli. Et moi, j'ai trouvé même la passe d'armes de la sprint race fantastique, vraiment. Et là, ça nous a donné un avant-goût de ce qui pourrait se produire pendant le Grand Prix. Et ça s'est produit pendant 30 tours. Donc, c'est génial. On a eu un coup à toi, un coup à moi, sous toutes les coutures. Pas de coup tordu. C'était viril, mais correct. Moi, j'adore ça. C'est ça, le sport automobile. Donc, ça, c'est absolument génial. Et on le doit, et tu sais ce que je vais dire, aux pilotes avant tout, qui, on leur donnerait des trottinettes ou des patinettes ou des engins de levage, ils feraient pareil. C'est-à-dire qu'ils donneraient le meilleur. Et ça, c'est génial. Et puis, ça nous garantit, mon Nico, et je terminerai juste là-dessus pour le moment, Toto Wolff les laisse se battre. Et là, tout à son honneur, encore une fois, il a un peu réglé les comptes. Il a mis le calme dans la cour de récréation, on va dire, après la sprint race. Et je crois qu'Antonelli, malgré ses 19 ans, a bien compris la leçon et la règle. On se frite, on se bastonne, on se rentre dedans, mais pas de coup tordu. Bah, c'est génial.
Ouais, et ben on va l'écouter, tiens, Kimi Antonelli au micro du diffuseur Canal+.
This weekend has been a good lesson for me on.
Ce week-end a été une bonne leçon pour moi.
Sur
plein de choses. J'ai pas été aussi performant qu'à Miami, c'est clair. Il faut que je comprenne pourquoi. C'était bien quand même. C'est un circuit où George a toujours été très solide et on était vraiment très proches, côte à côte. Ça aurait été vraiment bien de voir comment le combat se serait terminé, car nous étions très proches. Je pense que l'on se serait battu jusqu'à la fin de la course. Ouais, lui aussi, hein, Kimi Antonelli. Tu sens que
il y a de la frustration parce que gagner comme ça,
il voulait pas gagner
toujours
comme ça.
Voilà,
c'est ça,
exactement. Ouais. Il voulait gagner sur la piste, mais bon, ça c'est là, dans sport mécanique, il y a mécanique. Hein, c'est ce qu'on rappelle tout le temps.
Ouais, Nico, moi la question qu'on est obligé de se poser, c'est malgré toutes les circonstances de course qui sont défavorables à George Russell, le constat comptable, c'est quand même qu'il prend un éclat au championnat du monde et qu'Antonelli est vraiment en train de prendre le dessus. Est-ce que c'est un tournant, ce prix du Canada, même dans les petits signaux? On est souvent attentif à ça, des fois, tu sais, il y a des petits signaux qui font que la petite chance du champion du monde, du futur champion du monde, voilà. Antonelli, on sent qu'il est en train d'avoir tout ça un peu de son côté, là, depuis 4 courses.
Alors c'est sûr, il a la chance du champion, comme on dit. Après, il ne faut pas oublier qu'on n'a même pas passé le quart de la saison. Tout peut encore arriver.
Oui, cinquième manche.
Ouais, c'est ça. L'année dernière, on l'a vu avec les McLaren, l'accident avec Norris et Piastri qui a mis sur le carreau Norris. Et pourtant, c'est lui qui est devenu champion. Encore plus tard dans la saison, à Zandvoort, il abandonne. On pensait que c'était terminé pour lui. Il est revenu, il a été champion quand même.
Donc, bien aidé par l'écurie, moi je le dis toujours, mais bon, c'est mon opinion. Hein.
Finalement, mais on retient qu'il est champion et
bien sûr,
il le sera pour toujours.
Tu as raison.
Mais non, c'est sûr qu'il aurait préféré terminer la course petit 1. Au pire, il aurait été inscrit 18 points de la deuxième place. Là, à contrario de Miami, c'était une piste qui lui convenait parfaitement. Alors, s'il y avait un endroit où il ne fallait pas qu'il abandonne, c'était là. Après, on va voir ce qu'il a dans le ventre seul. Parce que pour le moment, il n'a jamais été dans une position de jouer le titre. Là, c'est clairement le cas. Et en plus, c'était lui qu'on mettait en favori et tout le monde commence à lui planter des couteaux dans le dos. Donc, ouais, ça va être sympa de voir ce qu'il a dans le ventre. Mais moi, je suis persuadé que la saison n'est pas terminée et qu'on n'a pas encore vu le huitième, le quart de ce qui va se passer.
Pas le quart, c'est exactement
ça. C'est ça. Et puis, ça fait plaisir d'avoir des flashbacks des années 2014 où il y avait vraiment deux pilotes pour jouer la gagne dans une équipe comme Mercedes.
Et 2016, où ils se sont traités avec Nico. Hein.
Et s'il y a bien une personne dont on peut faire confiance qui laissera battre ses pilotes jusqu'au bout, c'est Toto Wolff.
Ouais, on est sûr de ça. Il va rééditer le Hamilton-Rosberg de 2016, Jean-Luc.
Ah oui, moi je le pense vraiment. D'abord, je crois que c'est dans sa nature. Encore une fois, je l'ai critiqué aussi plus souvent qu'à mon tour parce que parfois il est critiquable, surtout quand il nous prend pour des beignets. Bon, ça, moi, je ne supporte pas. Mais autrement, bon, c'est de la com. Hein. C'est un type intelligent qui connaît bien la course, qui a piloté lui-même. Et puis, je crois que c'est fondamentalement dans sa nature. C'est un sportif, donc il va les laisser se battre, à mon avis, même si. Une nouvelle fois, son poulain, tout le monde le sait, c'est Kimi Antonelli. Mais il ne mettra pas de bâton dans les roues à George Russell pour autant. Donc ce sera à Russell d'aller chercher ce titre. Et comme l'évoquait Nico à l'instant, bah, maintenant il part avec un handicap assez considérable, hein, parce qu'on ne s'attendait pas à ça, effectivement, même s'il avait été battu sur la piste. Ceci dit, moi, je vais être cruel. Je préfère pour lui qu'il soit battu comme ça, parce qu'il n'y est pour rien. Donc c'est une élimination mécanique, que battu sur la piste. Pour la quatrième fois consécutive par son équipier. Tu vois ce que je veux dire ? C'eût été plus humiliant et plus inquiétant pour la suite. Là, ça ne l'est pas. Il a réagi, je le répète, avec beaucoup de coronesse. Hein. Il s'est battu et il va le faire maintenant jusqu'au bout comme un chien. Et comme je pense qu'on va nous remettre, comme par miracle, les deux Grands Prix qui ont été retardés, on va dire, il y a quand même plus de 100 millions de dollars à la clé. Donc, tu vas voir que la FOM, d'un coup de baguette magique, va nous remettre ça au mois de décembre. Donc, on va encore avoir la bagatelle de 19 Grand Prix, donc on va avoir le temps de discuter.
Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a une donnée qui est importante dans ce que tu dis, Jean-Luc, c'est que moi j'allais vous poser une question sur ça, sur l'aspect psychologique de ce Grand Prix sur Russell. S'il s'était fait battre à la régulière, Nico Russell, il aurait pris un vrai coup sur le casque, parce que là c'était une accumulation de Grand Prix où tu vois que tu es dominé à la régulière. Là, le fait que ce soit une casse mécanique, c'est très dur à encaisser. Parce que le gars, le pilote, a tout fait pour le prendre. Mais il y a un côté très fatalité où, bah, au final, j'y suis pas pour grand-chose. Je suis pas sûr que Russell soit très touché psychologiquement après ce Grand Prix du Canada, si.
Ouais, je pense que ça fait mal dans tous les cas. Mais alors, il y a peut-être des personnes qui vont pas être d'accord avec moi, mais je pense que intrinsèquement, sur le week-end complet, Russell a été meilleur qu'Antonelli. Et on peut le voir.
Et De Paul et une victoire.
Ouais. Et ouais, puis, ouais. On peut le voir aussi sur la course. En fait, il a passé plus de 80% de la course du sprint qu'il a effectué devant. Et on s'en rend plus très compte sur cette nouvelle réglementation. Mais Antonelli, quand il était derrière, il avait le boost électrique. Mmh. Alors que l'année dernière, on se rendait vraiment compte quand la personne avait une aide pour suivre avec le DRS, parce que c'était visuel, ça s'ouvrait.
Et puis on savait où, on savait tout. Voilà. Là, pour ça que c'était plus facile à lire, tu as bien raison.
Tout à
là,
fait.
C'est compliqué.
Ouais,
hein.
Là, de temps en temps, on se dit, il est dans la seconde, mais est-ce qu'il était dans la seconde dans la zone ? Absolument. On a du mal à encore...
Et à savoir si c'est dû au pilotage ou dû à l'apport d'énergie.
Ouais, et puis la télé devrait travailler encore un peu ça pour un peu plus de compréhension, bien parce sûr. Que pour le moment, c'est fouillis. Et on va comparer avec la formule électrique. La formule électrique fait ça d'une bien meilleure manière pour le moment. Mais non, moi, je pense que, certes, il est déçu, mais bon, il a quand même montré qu'il était là, il n'avait pas perdu tout son talent de pilote. Et ça nous rappelle aussi ce qui s'est passé les dernières fois avec McLaren, où lors de la saison 2024, Norris était meilleur que Piastri. Et début de saison 2025, comme par magie, ça s'est inversé. Et là, c'est exactement ce qu'on revit avec Anthony Russell.
Oui. Il faut attendre. Là, bon, c'est un tournant. Enfin, c'est 25 points de perdu. Puis tu sais, encore une fois, c'est un sport mécanique. Ça peut arriver à Antonelli. Il reste 19 Grands Prix. Donc, à mon avis, à un moment ou à un autre, il aura un problème mécanique. Peut-être pas de cette ampleur, mais il va être frappé lui aussi. C'est la loi. Hein.
C'est clair. Je vous ai pas donné le classement de la course sprint, tiens, parce que George Russell l'a remporté.
Et
cette
oui.
course sprint devant Lando Norris, 3e Antonelli, 4e Piastri, 5e Leclerc, 6e Hamilton, 7e Verstappen et 8e Lindblad. Voilà pour les pilotes qui ont marqué des points sur la course sprint. Tiens, je voulais qu'on écoute George Russell quand même, parce que, il s'est pas fait battre à la régulière. Mais c'était dur à encaisser, à chaud, au micro de Canal+, cet abandon. C'est complètement incroyable. Mener une course, à avoir un problème moteur après s'être battu si dur. J'ai pas les mots. Je repars d'ici satisfait de ma performance. Pole du sprint, victoire dans le sprint, pole en qualif, grosse bataille avec Kimi. Mais voilà.
Par parenthèse, c'est un problème de batterie, hein, Nico. On l'a appris après. Oui. Donc, oui. J'insiste, tu me vois venir, c'est la batterie, encore.
Si je peux me permettre sur l'affrontement Anthony Russell et essayer de voir quelques signes à droite à gauche, je trouve que, et Anthony l'avait déjà montré l'année dernière, quand il est seul, quand il doit faire un tour qualif ou quand il a géré une course, ça se comporte plutôt bien. Mais ça peut bafouiller, ça peut être un peu plus brouillon quand il y a une bataille directe, et en plus avec un coéquipier qu'il ne faut absolument pas toucher. Et on l'a vu à la sprint, ça a essayé de passer, mais ce n'était jamais clair. Une belle offensive, comme on a pu le voir par exemple dans la bataille Hamilton-Verstappen.
Enfin, moi, j'ai apprécié sa tentative, je pense, comme moi aussi, parce que essayer de dépasser à cet endroit-là, c'est-à-dire dans le virage, je ne sais plus si c'est le 1 ou le 2, enfin en tout cas à l'extérieur, il faut être bien équipé. Et effectivement, il y avait de la place que pour une voiture. Il l'a compris après. Et comme Russell était devant, Russell a sorti les coudes. Et puis voilà, c'est lui qui s'est retrouvé dans le gazon. Alors il peut dire qu'il a été en tête du sprint pendant à peu près 10 mètres et 2 dixièmes de seconde.
Ouais, après, il y a aussi une certaine intelligence de course à avoir. Mmh. Et je pense qu'ils étudient tellement les week-ends de course qu'ils doivent savoir que ça passe pas ici. Mmh. Mais c'est un gamin de 19 ans qui est en train de jouer et pour le moment dans un rêve complet. On ne peut pas lui reprocher ça et ça nous fait des supers images, des super
patates. Et il a réitéré sur Norris. Hein, il s'est retrouvé là 7 fois dans l'échappatoire, carrément. Ouais, mais bon. Ouais. Non, mais ça veut dire qu'il est audacieux. Et moi, j'aime bien ça, quoi. Quand les pilotes prennent des risques, ils sont là pour ça. Ouais. Puis à 19 ans, si tu veux, s'il ne les prend pas là, il ne les prendra jamais.
Ouais, mais attention, parce que l'audace peut l'amener à un moment donné à faire un zéro pointé.
C'est vrai.
Et dans 2 semaines à Monaco, attention. Parce que là, il n'y a pas d'échappatoire, comme au premier tour.
Donc, là, c'est carton rouge direct, il n'y a pas de jaune.
Ouais. Et si on se rappelle bien, en plus, l'année dernière, Antonelli à Monaco, ça avait été désastreux.
Mm. Oui, totalement. C'est ce que je me l'étais noté pour teaser le warm-up de la semaine prochaine, avant Monaco. Tiens, Nico, je ne sais pas si tu connais, on a une nouvelle rubrique dans le paddock cette année. C'est le coup de cœur, le coup de gueule de notre team principal, Jean-Luc.
Ah bah, c'est forcément parti. Que je connais.
Ah oui. Oh yes, ladies
and gentlemen, now we're... Il faut arrêter la Formule 1 parce que ça ne sert à rien.
Après, il s'est lancé dans une remontée vraiment à couteau ouvert.
Des moteurs de trottinette ou de tondeuse à gazon.
Mais écoute, s'il n'est pas gonflé comme une pendule. Et la queue du Mickey au rétroviseur aussi, t'es d'accord?
Bon Jean-Luc, tu voulais nous parler quand même de ce tracé du Canada, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que la Formule 1 va au Canada, on a des belles courses et que c'est quand même un circuit mythique. Et on a envie que ça reste au calendrier, ce genre de circuit.
Écoute, c'est un circuit à l'ancienne, mon Nico, et donc tu sais très bien, je sais, les brontosaures se réveillent, mais c'est pas grave, je suis pas le seul à l'apprécier, je crois, et on commence par les pilotes. Moi, j'écoute toujours les pilotes, et eux sont ravis de revenir là. Pour quelles raisons? Alors déjà, je vais dans le désordre, parce qu'il y a tellement de choses à dire, donc je sais que j'ai 15 minutes dans cette chronique, donc ça va aller très bien. La première, c'est quand même une victoire de Gilles Villeneuve en 1978 sur ce tracé, et donc c'était pour son arrivée, et on ne peut pas l'oublier. Maintenant, le circuit porte son nom, quand on a apprécié les exploits de ce pilote, qu'on les ait vécus, comme c'était mon cas, bien sûr, à l'époque, en live, ou aujourd'hui, on peut les retrouver, on peut tout retrouver. On sait que c'était un pilote qui avait un caractère absolument incroyable et qui avait une réputation fabuleuse. Et on dit toujours, on ne sait jamais, aurait-il pu devenir champion du monde? Oui, mais il fallait qu'il se discipline un peu. Je crois que discipliner Gilles Villeneuve, c'était impossible. Donc voilà pour le contexte général. Ensuite, eh bien, ça se déroule donc sur l'île Notre-Dame, qui est une île artificielle, construite pour l'exposition universelle de 1967. Avec tout un tas d'infrastructures, il y a un casino, etc. Puis ensuite, utilisé pour les Jeux Olympiques, ça devait être 76, avec le bassin d'Aviron derrière et ainsi de suite. Donc c'est un cadre à la fois naturel, urbain, particulier, on va dire unique. Et puis alors, quelle ambiance! Alors pour ceux qui ont eu la chance de vivre le Grand Prix du Canada dans les rues de Montréal, je peux vous dire que là, la ville est en fête, c'est peu de le dire, que les Canadiens et les Canadiennes sont merveilleusement accueillants et qu'on se régale, tout le monde de la Formule 1 vient là avec un plaisir évident. Et on l'évoquait aussi, tu sais qu'il y avait une course de bateau qui était organisée entre les mécaniciens, quel dommage que ça soit perdu aussi, avec, voilà, avec des embarcations de fortune. Alors voilà, j'ai décrit le contexte général. Maintenant, j'en viens au tracé. Bah, 4 km 361, 70 tours. Ça veut dire, multiplié par 12, ça fait plus de 700 occasions de se mettre dans le mur, notamment dans le mur des champions, où là aussi, ils sont tous venus l'embrasser, celui-là. Hein, le fameux mur dans la chicane très rapide, juste avant les stands. Ça veut dire que c'est un circuit où les pilotes sont obligés de rouler avec un faible appui sur les monoplaces parce qu'ils vont aller très vite dans les lignes droites. Et puis, il faut malgré tout de la stabilité au freinage. Et puis, il faut de l'engagement, il faut du courage, il faut de la volonté. Je ne vais pas citer non plus tous les accidents, mais il y en a deux qui touchent des Français qui me viennent en mémoire, évidemment. Celui de Jean-Pierre Jabouille, dont la carrière, malheureusement, en Formule 1 s'est arrêtée là, dans le virage numéro 3, qui avait tapé le mur. Les monoplaces étaient beaucoup moins sécurisées qu'aujourd'hui. Et puis, Olivier Panis. Alors là, je l'ai vécu de très près, celui-là. Puisque à l'époque, je commentais sur place et on était très très proche avec Olivier qui a eu les deux jambes brisées, alors un peu plus loin. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est un circuit. Oui, Nico.
Olivier Panis, qui avant son accident était troisième du championnat
Absolument.
Du monde avec une Ligier.
Absolument.
C'est quand même à noter, et vraiment cet accident lui a cassé sa carrière.
Je te reprends avec une Prost.
Désolé.
Non, mais c'est pas grave, le lapsus est révélateur avec une Prost qui était en fait une Benetton de l'année d'avant. Mais bon, on va pas épiloguer. Donc c'est un circuit à haut risque, il faut le dire. Donc un circuit à l'ancienne, donc un circuit, je le répète, qui demande beaucoup de courage et beaucoup d'engagement de la part des pilotes. Et moi, j'apprécie beaucoup ça parce que pour moi, le sport mécanique, c'est fait de ça aussi. Non pas des drames, mais c'est fait du fait de risquer, de risquer sa peau, quoi, tout simplement, ou au moins sa santé. Ouais. Donc j'apprécie infiniment parce que l'exercice est encore plus périlleux. Voilà, pour toutes ces raisons, j'adore ce circuit et j'espère qu'il ne disparaîtra jamais du calendrier de la Formule 1. Maintenant, je sais que c'est une histoire de pognon et de dollars. J'espère que les Canadiens mettront toujours l'argent qu'il faut pour être là chaque saison. Voilà.
J'imagine, Nico, que c'est ce Grand Prix du Canada. Enfin, moi perso, j'ai grandi avec ce circuit-là. C'est le genre de circuit, quand tu les retrouves, tu les vois sur le calendrier, tu sais, c'est un peu réconfortant. Tu sais que tu vas passer un bon moment. Tu sais qu'il peut se passer plein de choses. C'est toujours des dates dans la saison qu'on attend avec impatience.
Ouais, comme disait Jean-Luc, en fait, c'est aussi là-dessus que la F1 doit tabler et pas totalement dans le monde des pétrodollars. C'est l'histoire. L'histoire de la discipline, ça fait vivre et ça crée une légende. C'est la même chose pour Monaco, c'est la même chose pour Monza, Silverstone. Et c'est des dates dans le calendrier.
Spa-Francorchamps, Suzuka.
Spa qui va être en alternance pendant les prochaines années. Mais
c'est
quelle honte. Donc, nous, il y a des dates comme ça qu'on coche dans le calendrier et pas forcément des courses comme, Las Vegas, Jeddah et le Qatar.
Et même Miami, tu peux y aller. Non, mais moi,
je ne sais pas.
Ah, si, tu peux. Non, moi, je dis juste qu'effectivement, la Formule 1, ça doit rester un sport mécanique. Et c'est amusant, mon Nico, et on va terminer, on est peut-être hors chronique maintenant, mais c'est pas grave.
Allons-y.
En disant juste que effectivement, la Formule 1 va perdre son âme si elle continue comme ça. Donc c'est important qu'elle la garde. Et quand on voit le rétropédalage général, alors, et de la FIA, et je commence à adorer Momo, puisqu'il parle des moteurs V8, Mohamed Ben Sulayem, pardonnez-moi, j'étais un petit peu familier. Mais donc là, je commence à l'adorer parce qu'il envisage très sérieusement d'imposer même le retour des moteurs atmosphériques ou turbo, on verra, en tout cas des moteurs classiques mécaniques à partir de 2030, pourvu qu'il y arrive. Et puis même notre ami Domenicali, il n'y a pas pire, lui qui nous dit « Ah oui, non, mais il ne faut pas être à la solde des constructeurs », alors qu'ils ont tout fait pour faire venir Audi et Cadillac notamment. Donc, entendre ça quelques mois seulement après qu'il ait autant loué ce règlement dont tout le monde tente à se défaire en disant « C'est pas moi, c'est lui, c'est l'autre », c'est risible. Donc voilà, on a des bases, on a des choses solides et nous, on va continuer à se battre pour que ça continue.
Exactement. Merci mon Jean-Luc pour ce petit coup de cœur là sur ce Grand Prix du Canada qu'on adore. Tiens, revenons à la course du coup. On va parler les gars de Lewis Hamilton, meilleure performance avec Ferrari dans ce week-end canadien. On l'écoute au micro de Canal après la course.
We heard Fred Vasseur saying good job Luigi on the radio.
On a entendu Fred Vasseur vous dire beau travail Luigi à la radio. Ça vient d'où? Mais je sais pas. Et je crois qu'en Italie, il m'appelait toujours Luigi quand j'étais petit. Quel super résultat, franchement. Je suis incroyablement fier de l'équipe. Je suis reconnaissant pour tout le travail. Et c'est vraiment mérité pour l'écurie. On a une super voiture cette année. Elle est fiable. Et bien que nous ne soyons pas là où nous voulons être, comme en ligne droite, et ben au final, on est toujours là, on est toujours dans la bataille. Je pense qu'une fois qu'on sera capable de travailler dur et de combler cet écart en ligne droite, et ben on aura une voiture pour gagner des courses. Nico, Lewis Hamilton, qu'on a vu avec un grand sourire, là, bien évidemment, tu sens aussi que c'est un vrai soulagement pour lui d'être allé chercher cette deuxième place, de faire ce début de saison aussi qui est plutôt positif. Il y a toute la pression un peu qu'il avait sur les épaules avec ce statut et le fait qu'il ne perfait pas avec la Scuderia qui est en train un petit peu de s'évacuer, ça lui fait un bien fou. Comment on juge là, son week-end de course à Hamilton?
Ouais, bah, très bon week-end pour Hamilton, et on voit son sourire que ça doit lui faire le plus grand bien, et c'est aussi comme ça qu'on engrange de la confiance, donc ça va amener du positif dans les Grands Prix à venir. Après, moi je vais peut-être décevoir certains, mais je vais modérer les choses dans le sens où l'année dernière déjà il avait été très performant face à Leclerc sur deux courses, la Chine et le Canada, et cette fois-ci c'est encore le cas. Très performant en Chine où il termine sur le podium, et au Canada où là, sur l'ensemble du week-end, il a été meilleur que Leclerc. Donc pour le moment, on peut quand même se dire que c'est un bis repetita de l'année dernière, sauf que les performances moyennes des Ferrari sont un peu au-dessus, ce qui fait qu'il termine sur le podium. Après, c'est toujours bien, on va voir comment évolue la saison, et c'est pareil, ça sert à rien de crier à la fin de Lewis Hamilton quand il y a une mauvaise performance et de crier à son retour quand il y en a une bonne. On verra sur la longueur, on verra oui. Après une moitié de saison, mais force est de constater que c'est un peu plus proche de Leclerc que l'année dernière.
Ouais, complètement. Est-ce que c'est un vrai réveil, mon Jean-Luc, là, ou comme dit Nico, c'est peut-être, je vais pas parler de coups isolés, mais voilà, faut modérer un petit peu la perf du week-end.
Ben, très bonne analyse de Nico, qui a eu raison de le remettre en perspective, parce que tout est exact, bien sûr, ce qu'il vient de dire. Donc, on va voir si sur d'autres circuits, il se montre également aussi performant. Je pense que son body language, son regard a changé là ce week-end, et il l'a dit, pour la première fois, il s'est senti à l'aise dans la voiture dès le début, et surtout il devance effectivement Charles, bon, qui a eu un week-end catastrophique, mais c'est assez rare pour être souligné. Donc les deux fois en qualif il est devant, en course il est devant, donc et pas qu'un peu. Charles était d'ailleurs perdu et ne comprend pas, lui-même a dit, comme c'est à livre ouvert, hein, il va regarder les réglages de Lewis, il va essayer de comprendre pourquoi il exploite mieux cette voiture que lui et pourquoi lui était perdu, et comme il le dit, il avait l'impression aux essais qu'à chaque freinage, elle allait lui échapper, il allait la mettre dans le mur. Comme c'est un circuit qui ne pardonne rien et qui ne voulait pas la mettre dans le mur, bah il a été prudent, mais c'est une course extrêmement frustrante. Alors, il y a Monaco unique, Monaco en son genre. On rappelle qu'effectivement, ce circuit du Canada, de l'île Notre-Dame, est un circuit que Hamilton apprécie particulièrement. 7 victoires, hein, égalité avec Michael Schumacher. Donc, c'est quand même quelque chose. Donc, c'est un circuit qui lui convient ouais. particulièrement bien. Alors, effectivement, il faut attendre un peu pour savoir. Je pense qu'un déclic s'est peut-être produit. Et puis, Lewis, qui est malin, mais qu'il pense vraiment, là aussi, à remercier vraiment de manière appuyée son équipe, parce qu'il a dit, là on a travaillé comme je voulais qu'on travaille depuis longtemps, il faut lire entre les lignes, genre ben, on m'écoutait peut-être pas trop, maintenant on commence à m'écouter, en tout cas je commence à avoir une voiture qui répond comme moi j'ai envie de l'avoir, et peut-être différemment de celle de Charles hein, aussi, on sait jamais, il y a tout un tas de réglages qui permettent effectivement d'avoir un ressenti, et le ressenti du pilote ben, c'est ce qui fait les quelques dixièmes voire centièmes de seconde qui font la différence.
Chose intéressante à noter aussi, il a dit que c'est la première fois depuis qu'il est chez Ferrari qu'il n'a pas fait de simulateur avant un week-end de course. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose entre lui et le simulateur? Parce qu'on sait que c'est quand même très difficile, notamment de répliquer le grip pneumatique Absolument. Sur les simulateurs. Est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas quelque chose qui clocherait
qui le mettrait dans une mauvaise direction, lui ou son équipe?
Sur les réglages à venir.
Absolument. À confirmer.
On va écouter Charles Leclerc. Tu le disais, Jean-Luc, il a vécu un week-end ultra, ultra difficile, dominé de A à Z par son coéquipier Leclerc.
Je suis content d'avoir fini la course. Et très nettement, c'est un miracle, pas pour ça, mais en général, de finir P4 sur un week-end aussi mauvais que celui-là, parce que de mon côté, j'ai juste eu à aucun moment pendant le week-end du feeling avec la voiture. Lewis a été bien sûr exceptionnel sur tout le week-end, mais moi j'ai été en difficulté tout le week-end et j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à mettre ses pneus en température. Autant sur les softs, j'avais l'impression que la course pouvait bien se passer. Dès que j'ai mis les médiums, j'ai perdu complètement le feeling, et bon là j'ai juste voulu ramener la voiture à la ligne d'arrivée, ce qui n'était pas donné.
Voilà, Charles Leclerc avec nos confrères de Canal+. Bon, comme tu... On a l'habitude avec Charles Leclerc, hein, ultra transparent, voilà.
Effectivement, Charles, donc, qui était perdu, qui n'y était plus du tout, là, et qui a tout le week-end essayé de retrouver une voiture qu'il puisse sentir, qu'il puisse utiliser, simplement, déjà, normalement. C'est vrai que quand on part 8 sur la grille et qu'on termine 4, on peut être content. Maintenant, McLaren, et on va en parler, a fait ce qu'il fallait pour lui dégager le terrain, donc il a déjà gagné 2 places comme ça. On va dire Isaac, et on va venir à son cas, qui est globalement, évidemment, extrêmement positif, mais avec les 2 pénalités qu'il a pris, il a fait ce qu'il fallait aussi pour lui dégager le terrain. Donc quand on en enlève 3 comme ça, bah effectivement on peut terminer 4, même s'il est très très loin, parce que c'est ça qui est frustrant pour lui. Il termine quand même à 44 secondes, c'est un gouffre, hein. Et même par rapport à Lewis, il termine à 34 secondes, c'est absolument énorme. Donc c'est ça qui frustre terriblement Charles, et lui aussi, bah, là il va falloir qu'il remette le compteur à zéro, et quoi de mieux que Monaco. Monaco, bah oui, il est chez lui, hein.
Et puis ouais, Monaco, Ferrari a quelque chose à tenter, hein, parce qu'on voit quand même bien que même si ce week-end n'a pas été un bon exemple, les départs des Ferrari sont quand même de moyenne assez bons par rapport aux autres. Ferrari, s'il y en a une qui arrive à être en première ligne, au premier virage, elle est en tête.
Ah oui, normalement oui.
Donc là, et comme on sait que 80% de la course se joue le samedi, il y aura des surprises dans la semaine.
Oui, c'est vrai.
C'est clair. À suivre, le Grand Prix de Monaco sera important pour Charles Leclerc, mais on sent que Ferrari va mieux, parce que même avec une voiture un peu cataclysmique, et en tout cas ses sensations, Leclerc arrive à la mettre quatrième. Les amis, il faut qu'on parle de McLaren, et il va falloir que vous expliquiez aux auditeurs du paddock RMC ce qui s'est passé avec McLaren, qui était bien, Jean-Luc, franchement, en termes de performance depuis 2 Grands Prix. Personnellement, moi, j'avais mis même Oscar Piastri vainqueur du Grand Prix, parce que je sentais que ça pouvait basculer sur quelque chose de très très bon. On a vu que Lando Norris, lors de la course sprint, était capable aussi de rivaliser avec les Mercedes, et puis il y a eu un choix stratégique en course qui a tout fait basculer, Jean-Luc.
Un choix très audacieux. Alors, je vais pas en rajouter, tu vas voir, au contraire, je vais les dédouaner, parce que j'ai bien écouté, bien lu ce que dit également Andrea Stella, qui a participé à la décision, et moi j'aime bien les gens qui assument leurs responsabilités. Alors c'est pas seulement pour ça. Alors j'en viens à ce que tu dis, mon Nico. Le positif, c'est que déjà, les voitures sont performantes, tu l'as dit, les 2 fois, lors des 2 courses, ils ont assuré la 2e ligne, entièrement Papaya, donc c'est pas rien, et puis pas largué, hein, vraiment proche, et on course comme tu le soulignais. Eh bien, Lando Norris, là aussi, pendant la sprint, s'est montré très performant. Bon, Oscar, lui, c'était plus compliqué pour plusieurs raisons particulières sur ce tracé. Mais bon, les McLaren sont vraiment dans le coup et sont vraiment pas loin des Mercedes. Et comme vous le savez tous, eh bien, à partir du 1er juin doit s'appliquer une réduction, entre guillemets, de la performance des Mercedes normalement, puisqu'on va interdire au moteur Mercedes d'avoir, vous le savez, ce taux de compression plus élevé. Et ça a été l'accord finalement conclu entre les constructeurs. On avait parlé d'abord du 1er août et maintenant c'est avancé au 1er juin. Donc on va voir des Monaco, même si c'est pas forcément un circuit de moteur, on va voir si l'avantage des Mercedes est en ligne. J'en reviens au Papaya, puisque c'est la question, mon Nico. Alors, le choix stratégique, bah écoute, c'est vrai que moi, ce que j'ai pas compris, c'est qu'ils mettent leurs œufs dans le même panier, c'est-à-dire qu'on le fasse sur
comme
une
souvent.
Des deux.
Comme souvent, mon Jean-Luc, la semaine dernière, c'était le cas, hein, aussi.
Tout à fait, tu as raison. Mais là, ça, c'est une erreur. Ça, on peut dire que c'est une erreur, parce qu'on peut tenter le coup en parlant avec les pilotes. Celui qui est le plus chaud pour tenter ce coup-là, il faut le faire. Pourquoi pas ? Ça pouvait marcher, puisque personne, et vraiment personne, pouvait dire. Au moment, je rappelle que c'est 5 minutes avant le départ, on doit choisir ses pneus. Donc, on ne peut plus intervenir. 5 minutes avant le départ du tour de formation. Hein, donc, on remonte à l'envers. Et là, on est à la minute près. Ça veut dire prendre la décision 7 minutes avant. C'est ce qu'a expliqué Andrea Stella. Or, 7 minutes dans le contexte météorologique et climatique de ce qui se passait là, il y avait un espèce de je sais pas comment dire, crachin, voilà, qui tombait, voilà. Qui tombait à ce moment-là. Les pilotes ont dit également, après l'hymne, lorsqu'on a regagné les voitures, donc c'est quand même juste avant le départ, il tombait toujours un crachin, donc on pouvait penser que ça allait être pire. Et puis ils ont dit aussi, on a eu du mal avec les slicks quand on s'est mis pour se mettre en grille, ça glissait de partout. Donc on a dit, oula, si ça reste comme ça, on fait le pari des intermédiaires. Why not ? Ce qui m'a étonné, c'est même que personne ne fasse le pari des full wet, parce qu'ils auraient chauffé encore plus vite. Et c'est ce que Pirelli disait. Pirelli, qui là aussi, par parenthèse, vraiment avait le trouillomètre à zéro, parce que ceux qui ont essayé leur pneumatique, il y a 4 équipes qui ont essayé, et tous en ont dit pique-pend en disant on n'arrive pas à les mettre en température, c'est une catastrophe absolue, ils tiennent pas du tout le pavé, etc. Donc Pirelli était très angoissé à l'idée de voir l'ensemble du paquet utiliser ces pneus intermédiaires ou wet. Et là aussi, l'ingénieur, le nouveau responsable de chez Pirelli, a dit faut utiliser plutôt les wet plutôt que les intermédiaires parce qu'ils vont monter en température. Donc bon, pour en revenir à ce choix, donc évidemment, il y a eu ça. Il y a eu, bah, malheureusement pour Arvid Lindblad, il grille son embrayage, il n'arrive pas à engager la première. Enfin, il n'y est pour rien, encore une fois, hein, c'est technique. Il n'arrive pas à démarrer. Donc, du coup, on fait deux tours de formation à petite allure. Donc, ça fait encore des minutes en plus. Donc, la piste, elle sèche et on va dans le mauvais sens. Qu'en aurait-il été, et je reçois tout à fait cet argument, si la course était partie comme elle devait partir, au bon moment, eh bien, avec 5, 7, 8 minutes plus tôt, bah, y aurait peut-être eu 3, 4, 5 tours fantastiques des McLaren. Et là, c'eût été une toute autre histoire.
Ouais, c'est toujours facile
Nico, ils ont et puis Nico, ils ont enfin les pilotes pour le coup, on sait qu'ils ont parfois eu Norris, Piastri des mots un peu durs sur la stratégie de leur écurie, tu vois. Là, ils ont défendu le pari, hein, des intermédiaires.
Ouais, c'était ce que je commençais à dire, que c'est toujours facile de faire le donneur de leçons après coup.
Oui. On a toujours raison.
Non, mais c'est sûr. Moi ce que je trouve dommage, c'est qu'ils étaient 3e et 4e sur la grille, qu'ils avaient montré une bonne performance en sprint, et tu te dis coup, c'est peut-être pas à nous de le tenter, c'est plutôt à Audi derrière.
Il y avait beaucoup de risques, il y avait beaucoup à perdre.
Ouais, voilà. Exactement, il y a eu beaucoup à perdre et ils ont tout perdu. C'était peut-être pas à eux de jouer le jeu. Comme on l'a vu sur les dernières courses, Piastri aurait pu gagner au Japon, Norris aurait pu gagner à Miami. Là, il y avait peut-être une nouvelle opportunité. Je pense que la victoire des Papaya va venir à un moment donné.
Oui.
Mais bon, c'est quand même un gros flop, cette course, sur un choix stratégique et par la suite technique, puisque Norris abandonne et Piastri a eu du mal à remonter, on va dire.
Oui, mais c'est ça qui m'a étonné. Alors, à un moment, on voyait, alors je ne sais plus lequel, qui suivait les leaders quand il était à un tour, et il suivait, et même à quelques moments, comme il remontait un petit peu sur eux. C'était très étonnant de voir ça, mais c'est vrai que Piastri s'est pris un peu les pieds dans le tapis, là, il faut bien le dire. C'est une faute, ça arrive à tout le monde, hein. Et quand il bloque la roue et qu'il vient percuter le pauvre Albon, qui en avait déjà assez avec sa marmotte et tout le reste, donc là, il en avait plein son sac. Le pauvre Albon, lui, c'était pas son week-end non plus.
C'est vrai qu'il s'est pris la seule marmotte. Non, il y en a eu une autre, je crois.
Mais... Il paraît Gasly, oui, je crois. J'avais entendu parler que de celle d'Albon. Bon, enfin, deux marmottes, malheureusement.
C'est une tradition, les marmottes.
Elles habitent là, hein, toute l'année. Hein, donc,
c'est la F1 qui est locataire.
Voilà.
Totalement, c'est vrai. C'est la F1 qui est locataire. Les marmottes, elles sont chez elles. Tiens, on parlait du réveil d'Hamilton et du regain de performance. Il y en a un aussi qui va mieux, Jean-Luc, c'est Max Verstappen. Premier podium de la saison. On le sentait venir. La Red Bull va mieux, d'ailleurs. Il valide ça avec un bon petit podium et un week-end plein, Verstappen.
Écoute, depuis Miami, je pense que dans sa tête aussi, il y a eu le Nürburgring, les 24 heures, il s'est fait plaisir. Je crois que ça y est, il a trié. C'est un garçon intelligent, évidemment, lucide. Il se posait des questions sur la suite de sa carrière. Il en a fait état, d'ailleurs. Certains l'ont reproché. Je ne comprends pas comment on peut se permettre de reprocher à un pilote ou à un champion, d'ailleurs, de se poser des questions. On ne connaît pas sa vie, hein. En tout cas, maintenant, il a pris sa décision et il a même annoncé que 2027, il serait là. Il l'a dit.
Oui.
Donc, son avenir est clair. Et moi, je pense que tout va avec. Alors, ça va avec le fait que lui... on ne peut jamais reprocher à Verstappen de ne pas aller chercher le dernier millième de seconde, mais là, je crois qu'il est mieux dans sa tête, donc mieux dans sa voiture. Je crois qu'on s'était fourvoyé, on l'a dit, et tout le monde l'a reconnu, y compris Laurent Mekies, dans les essais, dans les réglages, puisqu'on lui avait fait une voiture qui ne lui convenait pas du tout, mais il a dit, vous voulez le tenter, on tente le coup. Je vais faire tout ce que je peux. Ça ne marchait pas. On est revenu pour la course, probablement d'une manière ou d'une autre, même si on n'a pas trop droit de toucher aux voitures, mais bon, à des réglages qui lui convenaient mieux. Et lui aussi, il avait la passe d'armes avec Hamilton, ça l'a réjoui. On avait quand même un paquet de titres de champion du monde. Là, on avait 11 titres qui se bastonnait sur la piste, bah, c'était génial, là aussi. Vraiment, non, c'était une course enthousiasmante et je comprends que Verstappen, lui aussi, n'avait pas le même faciès, pas le même regard, pas les mêmes mots, pas la même attitude.
Ouais, Nico, que cette guerre-là, Hamilton, Verstappen, pour deuxième place, pour un podium, nous a replongé un peu quelques années en arrière, ça fait bien de voir ça.
ouais, c'était sympa. Et puis, faut quand même reconnaître que sur cette course, et tous les pilotes l'ont dit, et c'est à mettre au crédit de cette nouvelle génération aérodynamique de voitures, les pilotes se suivent beaucoup mieux, beaucoup moins de perturbations. Et ça nous permet d'avoir des passes d'armes très serrées comme ça. On les voit aussi à la limite, plus en dérapage dans certains virages. Donc, cette génération de monoplaces a quand même été très critiquée depuis quelques
Pour d'autres courses, raisons, ouais, hein, pour Nico, d'autres voilà, raisons. En tout cas, moi, pour ce qui me concerne.
D'un point de vue, je vais dire d'un point de vue
aérodynamique. Mais tu as raison. Non, mais et même le poids, le fait d'avoir perdu une trentaine de kilos, il faut encore en prendre 50 ou perdre 200 et puis ça ira mieux.
Ça, mais c'est... Enfin, il y a quand même un certain spectacle qui est donné dans les courses qu'on n'a pas vu toutes les années. Donc on va pas non plus, mais là je commence à m'écarter du sujet. Ouais, belle bataille Verstappen-Hamilton et avec toutes les modifications moteurs qui vont arriver par la suite, puisque maintenant la FIA tire les fils des performances des motoristes, moi ça m'étonnerait pas de voir Verstappen sur la plus haute marche d'un podium d'ici, allez... peut-être 3-4 mois.
C'est une bop qui ne dit pas son nom. Une balance of performance, pour être précis, pour essayer effectivement d'équilibrer. Tu as raison. Et ça aussi, alors je ne sais plus comment on l'appelle, j'ai oublié le nom.
A duo,
bah oui, pourquoi pas. qui permet à ceux qui seraient moins... Et là aussi, c'est ça qui me fait rigoler, c'est que comment savent-ils vraiment? Puisque, évidemment, il faudrait passer tous les moteurs sur le même banc. Et aujourd'hui, c'est compliqué avec la puissance électrique en plus de l'addition. Enfin, bref, bon, passons. C'est vrai que c'est un peu artificiel tout ça. C'est un peu ce que moi personnellement je reproche surtout à ce règlement au plan de la propulsion. Mais Nico a parfaitement raison, au plan de l'aéro, bah, tout n'est pas acheté, bien sûr.
Oui, bien sûr. Mais on a toujours essayé d'être modéré.
Et de faire la part des choses.
Et de faire la part des choses. Bien évidemment qu'il n'y a pas des mauvais.
Il y a du positif et du négatif tout le temps.
Bien sûr, totalement. Tiens, on écoute Max Verstappen sur sa troisième place avec Canal.
I mean, we started, of course, in quite a challenging way this season. So
notre début de saison a été difficile pour nous. Mais nous avons déjà fait de bons progrès, franchement. Bien sûr, on peut faire mieux, mais pour nous, c'est vraiment un superbe résultat. En médium, le pneu n'était jamais dans la bonne température. C'est pour ça qu'on n'était pas aussi compétitif que le second relais. Mais on est là, on est sur le podium. Et peut-être qu'avec un peu de chance, et les problèmes des autres, mais quand même, on est sur le podium et c'est top d'y être. Voilà, il est content, Verstappen, des progrès de sa voiture. Il y en a un autre aussi qui s'est relevé après Miami, c'est notre Français Isaac Hadjar, Nico, qui a fait, qui était dans un moment difficile parce que on avait beaucoup parlé de sa non-course à Miami, de l'écart surtout qu'il y avait eu avec Max Verstappen, des débuts d'inquiétude qui pouvaient naître sur le fait que Verstappen redevenait Max Verstappen et que comme toujours, son coéquipier allait souffrir. Et là, Isaac Hadjar, il prend des gros points, c'est son meilleur résultat avec Red Bull, cinquième.
Une très belle performance de Hadjar. On va aussi remettre dans le contexte, Montréal, c'est aussi un circuit, on va dire, facile. C'est-à-dire que, d'un point de vue pilotage, souvent les écarts entre coéquipiers sont très minimes. Ça a été le cas avec Hadjar, là, qui a été très proche de Verstappen, en qualif, qui était presque à 1 ou 2 dixièmes. Donc ça doit lui faire du bien mentalement, surtout quand on a un Grand Prix en 6 semaines et que quand on fait une erreur, on te la rabâche pendant les 3 semaines qui suivent. Donc ouais, là, il nous a montré qu'il avait le niveau, il marque des gros points, c'est important pour la confiance et il montre qu'il est un tout petit peu au-dessous de Verstappen, mais on va dire que c'est un peu normal. Et ça permet de poser une petite question. Vous l'avez vu, Hadjar a fait le meilleur temps en Q2. Quand remonte la dernière pole position d'un Français en Formule 1?
Oh, ça, c'est une sacrée colle. Écoute, alors, ça devait être peut-être dans des circonstances relativement exceptionnelles, parce qu'à la régulière, malheureusement, effectivement, les pilotes français n'ont pas toujours été dans les bonnes voitures au bon moment. Écoute, il va falloir répondre.
Ouais, c'est pour aussi montrer qu'on a beaucoup parlé de 96 Panis à Monaco, pendant 20 ans, nous évidemment. A suivi. Eh bien, ça date de pas si loin de 96, c'est 1997 avec Jean Alési à Monza.
Ah, c'est Jean.
C'est pour montrer, en fait, nos Français, ils sont là, ils ne sont pas forcément toujours dans les bonnes voitures, et ça fait bientôt 30 ans qu'on n'a pas eu un Français en pôle.
Alors, pour rebondir sur, si tu veux bien, sur Isaac, mon Nico.
Oui, parce que moi, mon Jean-Luc, la question que je voulais te poser, C'est quand même un gars, depuis qu'il est en Formule 1, Isaac Hadjar, il a eu des moments difficiles. C'était le cas après Miami. Et à chaque fois, il a cette force de caractère de se relever. Quoi qu'on en pense, tout n'est pas parfait, ok. Mais à chaque fois, il arrive quand même, dès le week-end qui suit, une contre-perf, une erreur, ce que vous voulez, il arrive à dire, ok, mais les gars, je suis là, moi. Je suis là et je ne vais pas lâcher.
Ah ben là, c'est un week-end parfait, je dirais pour lui, parce qu'effectivement, comme Nico l'évoquait, il était très très proche en performance, donc ça c'est quand même une référence, avec un Verstappen à son niveau, je dirais, parce que là, on ne peut pas lui reprocher de ne pas faire tout ce qu'il faut avec le matériel dont il dispose, et c'est un sacré hommage et une sacrée référence que de voir Isaac s'approcher à ce point de son leader dans l'équipe, donc c'est formidable. Il mène, bon, après, en course, bon, ça peut être un petit peu brouillon, encore, parce que je trouve un poil trop fébrile, tu vois, c'est le mot. Et puis, il faut, là, si j'étais son conseiller ou son manager, je lui dirais, calme-toi, pareil, respire, ça viendra. Tu as le talent, tu as la vitesse, tu as la monoplace, tu as l'écurie, tu as l'équipier, tout va bien, tout
trop
va
dans,
bien.
Trop dans l'émotion.
Voilà, trop dans l'énervement, trop dans l'immédiat.
C'est la jeunesse.
Oui, non mais écoute, c'est très bien d'avoir du jus. On l'évoquait à propos de Kimi Antonelli à 19 ans. Lui, il en a 21, il n'est pas beaucoup plus vieux. Mais juste, ça lui apporterait de la sérénité. Voilà, c'est peut-être juste la seule chose qui lui manque. Un poil de recul par rapport à l'instantanéité du truc. Et effectivement, comme tu le disais, après un week-end, on va dire mauvais, pour ne pas dire catastrophique, à Miami, pour toutes les raisons que l'on sait. D'une part, l'écart de performance. Moi, c'est ça qui m'a le plus inquiété, hein, je l'avais dit. C'est plus que l'accident en début de course et tout, la remontée, ben, comme il dit, je passais tout le monde. Ben oui, quand tu es effectivement au-dessus de tes pompes et au-dessus des pompes de tout le monde, tu passes tout le monde jusqu'à ce que tu te mettes dans le mur, c'est normal. Donc ça, c'est la course automobile aussi. Donc, mais c'était l'écart de perf, hein, ça m'inquiétait. Là, il est revenu parfaitement dans le coup. Il mène, à part ses petites erreurs, bon, le drapeau jaune, etc. Et puis, j'ai eu peur quand même dans la ligne droite, à plus de 300, là, quand il change de trajectoire en zone de freinage devant Charles. Charles n'était pas très content non plus. Hein. Je pense qu'il a dû aller le voir après entre deux camions dans le paddock en disant écoute, ça se fait pas. D'abord, c'est très dangereux parce que si moi je freine pas, je te monte dessus et là je monte à 10 mètres. Hein. Donc, ça, c'est le genre de truc qu'il vaut mieux éviter aussi. Voilà, mais à part ça, c'est un week-end excellent pour lui et qu'il remet dans le coup. En plus, il prend un bon paquet de points, dis donc là, c'est pas rien. D'un seul coup, il en prend 10. Donc, ça le remet juste derrière Colapinto qui devient une référence. Il va falloir le dire aussi. Juste derrière Lawson, enfin pas très loin de Burman, c'est-à-dire qu'il est dans le bon paquet là.
Ouais, totalement. Tiens, on l'écoute et après on va parler des Alpines.
Non, les pénalités, honnêtement, avec du recul, je pense que c'est faire. J'étais vraiment pas dedans, j'avais tellement du mal avec la voiture et j'avais pas le feeling d'hier que j'avais en sprint, que j'avais en qualif. Donc il va falloir essayer de comprendre pourquoi. Et du coup, ça a fait que j'étais pas vraiment là-dedans. Quand j'étais tellement concentré à essayer de la garder en piste que c'était très compliqué. On a des réponses sur pourquoi la voiture elle marche mieux ce week-end. On sait pourquoi. On sait qu'aussi à Monaco, on aura quelque chose pour se battre devant. Donc il n'y a que du positif. Quand on va retourner sur les pistes comme Barcelone, on va souffrir un peu plus. Il faudra essayer d'anticiper.
Voilà, Isaac Hadjar au micro de Canal+. Et puis on va terminer ce podcast, les amis, en parlant d'Alpine. De Franco Colapinto, t'en parlais Jean-Luc, de Pierre Gasly, Nico, deux Alpines dans les points, 6 et 8, avec en plus un Gasly qui a vécu un week-end un peu compliqué. Tout ne va, enfin, il n'a pas une super sensation là avec sa voiture. Par contre, Colapinto, ça tourne fort, ça prend des points.
Ouais, bah ça montre aussi l'impact dans le sport mécanique d'avoir une voiture qui convient. Colapinto, il y avait beaucoup de personnes qui limite se moquaient de lui l'année dernière. Pour avoir suivi sa carrière en formule de promotion avant, c'est pas un manche du tout. Et là, il nous le prouve. 6e et 8e pour les Alpines, c'est encore des gros points. Ça conforte la 5e place du championnat. Donc ouais, on a l'impression qu'Alpine est la 5e force du plateau, la première des autres du peloton suiveur. Après, moi, il y a quelque chose qui m'agace un peu, parce qu'en tant que Français, on était quand même très attachés à Viry-Châtillon. Là, c'est Alpine avec un moteur Mercedes. Et pendant des années, Renault et Viry-Châtillon ont été interdit en fait de modifier leur moteur, de l'améliorer, puisqu'il y a eu un gel des moteurs pile poil au moment où Alpine était au plus bas. Et maintenant, total inverse, on donne des bonus à tout le monde. Alors moi franchement, Bah, on va dire que c'est le coup de gueule de Nico, mais ça me rend un raison. Peu vert pour les gars de Viry.
Bah, écoute, je suis passé devant tout à l'heure en venant dans les studios de RMC, et tu vois, j'ai eu un pincement au cœur à chaque fois de voir ces bâtiments qui sont maintenant dénaturés. Pour moi, c'était Renault Sport, hein, aussi, je suis désolé. J'ai visité cette usine un paquet de fois à la grande époque avec Bernard Dudot, avec Denis Chevrier, avec tous ces gens-là. Enfin, ils ont été tellement, tellement nombreux qui ont fait l'histoire de la Formule 1 en France, hein, qui ont imposé le turbo, on le sait bien, levé 10 après, enfin, c'est pas rien quoi. C'est, tu as raison, ça fait mal au cœur. Moi, je te dis encore une fois, Alpine, j'ai du mal à l'appeler Alpine parce que c'est un badge. On peut l'appeler café,
on pourrait l'appeler Lotus,
Nespresso,
pourrait...
ou ce qu'on veut. Ouais. Ça n'a aucun intérêt. C'est une écurie britannique avec un moteur allemand et encore allemand, moitié anglais pour être complet aussi. Mais bon, peu importe, le résultat est là. Tant mieux pour l'équipe et tant mieux surtout pour les pilotes. Et tu as raison de souligner. J'ai eu la dent dure aussi par rapport à Colapinto. Moi, j'assume toujours l'an dernier parce qu'il a fait des courses qui étaient infâmes, il faut bien reconnaître. Là, il a retrouvé la niaque, il a retrouvé le talent qu'il avait eu parce que ça a été un garçon où il a eu une fulgurance. Alors, tout le monde s'est entiché de lui. Et puis après, il a déçu parce que bah, il sortait. Donc bah, là aussi, il est jeune, hein, il ne faut pas l'oublier. Et puis, il a le poids en Argentine, évidemment. Oui. La patrie de Juan Manuel, quand même, hein, il faut le rappeler. Donc, il a le poids de l'histoire. Il a un engouement incroyable alors que pour le moment... Il n'avait pas fait grand-chose. Il commence à faire quelque chose parce que c'est son meilleur résultat en Formule 1. Et puis surtout, je l'ai déjà dit aussi, et c'est un hommage, c'est pas Pierre enchaîne les performances, on va dire, moyennes, notamment là en qualif. Hein, il est devant régulièrement, il est devant en course. Bah c'est très bien. Avoir deux équipiers comme ça qui se poussent, je suis persuadé que Pierre aussi va, lui aussi ne comprend pas pourquoi sa monoplace, il n'arrive pas à en faire la même chose que ce qu'on fait Colapinto. Donc c'est intéressant, parce qu'à chaque fois qu'on a deux équipiers qui se poussent, c'est la meilleure façon de faire avancer l'équipe. Hein. Y a rien à dire là-dessus.
Le cercle ouais. vertueux pour pas mal de pilotes là, dont on a parlé.
Oui, c'est vrai, t'as raison. Merci beaucoup les amis pour ce bon petit débrief du Grand Prix du Canada la semaine prochaine Monaco.
Gros morceau.
On va essayer. De vous faire vivre au plus près ce Grand Prix de Monaco. Je serai sur place. On va essayer de vous préparer des petits podcasts en amont là. Très sympa. Et puis on retrouvera bien évidemment Jean-Luc tout au long du week-end pour commenter les courses, pour le débrief. Nico, merci beaucoup.
Merci à vous.
Je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne podcast Paddock RMC, vous pressez de le faire pour avoir toutes les notifs qui tombent quand les podcasts sortent, qu'on est également dispo sur les réseaux sociaux, hein, sur Instagram, Paddock RMC. Voilà, vous avez toute l'actu de la F1, les classements actualisés, les pronostics de la Dream Team RMC avant chaque course. D'ailleurs, il va falloir qu'on se fasse un point sur le championnat.
Oui, on ne doit pas être très bon là, je ne sais pas.
Ouais, bon, Jean-Luc, on n'est pas bon, je crois, toi.
Ah, ouais, non. Je sais que j'avais mis Verstappen sur le podium, je crois que je l'ai mis 3.
Moi aussi.
C'est par hasard, mais bon, c'est comme ça. Non, parce
mais je crois qu'on avait fait les mêmes pronos, sauf que toi, t'avais mis, j'avais mis Piastri 1 et toi, t'avais mis Russell 1.
J'ai mis Russell,
Voilà, exactement. Ouais, et on avait mis Verstappen sur le podium, mais on est aux fraises, hein. Bon, Jean-Luc. On va se faire un point. En tout cas,
non, mais nous,
si
on avait tablé sur la pluie, mon Nico, c'est pour ça, c'est tout.
Ouais, c'est tout le temps, nous.
Bah oui.
Si vous voulez voir les pronos de la Dream Team, vous y allez. Allez, ciao, bye.
Ciao.
Merci.
Le paddock RMC.